Salut à tous, je suis avec les amis de Férus, qui est une asso qui traite des grands prédateurs en France. Bah tiens, je suis avec Olivier, qui est sans doute le président, qui est le vice-président de Férus. Et toi, tu es ?
Philippe, administrateur de Férus.
Donc je suis avec Olivier et Philippe. Vos préoccupations, c'est surtout le lynx, l'ours et le loup. On le voit sur les décorations de votre stand. Et je propose qu'on fasse un petit point route avec vous sur ces trois animaux. Allez, on va commencer quand même par le loup. On est fin 2023. On va commencer par une question très classique. J'aimerais que tu me fasses un petit contexte. Il y a combien de loups en France ? Et j'aimerais que tu me fasses un petit comparatif avec les pays qui sont nos voisins.
Alors, c'est toujours difficile de répondre à la question du nombre de loups, surtout les loups en particulier en France. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de ça dans la presse ces derniers mois, notamment pour dire il y a pas le comptage de loups est pas suffisant. Alors, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'il y en a beaucoup plus que ce qui est déclaré, mais...
Alors, on va quand même éclairer celles et ceux qui nous écoutent. Oui. On pense qu'il y a autour de 1000-1200 loups en France.
C'est ça. Alors, plutôt autour de 1000, je dirais. C'est un ordre de grandeur. Voilà, il faut garder ça à l'esprit. Il y a toujours une marge d'incertitude en moins ou en plus. Ça peut être 800, ça peut être 1200. Mais l'ordre de grandeur, c'est 1000 loups. Et si on compare ça, comme tu posais la question là, juste avant, avec des pays voisins, on est dans la fourchette basse, j'ai envie de dire, par rapport à des pays comme même l'Allemagne, où les loups sont arrivés plus tard qu'en France. Parce qu'en France, ça fait quand même 30 ans maintenant qu'ils sont revenus officiellement, on va dire.
Les loups, je le précise, sont arrivés en 93 dans le parc du Mercantour. Tu as écouté mon excellente émission sur France Culture.
En 92.
En 92, dans le parc du Mercantour, premier couple qui est venu d'Italie. D'où d'ailleurs ?
Alors les loups, en particulier le noyau vraiment production, on va dire, de la population de loups alpines, vient plutôt du centre de l'Italie, donc la région qui s'appelle les Abruzzes, qui est une région montagneuse très sauvage, qui est protégée depuis très longtemps.
Où les loups n'ont jamais disparu.
Où les loups n'ont jamais
disparu. Contrairement à d'autres pays d'Europe occidentale.
Ça, c'est quelque chose qui est très important à retenir par rapport au contexte qu'on peut avoir aujourd'hui dans les différents pays européens. Globalement, Europe de l'Est, Europe du Sud, des loups qui n'ont jamais disparu, et Europe de l'Ouest, comme chez nous, par exemple en France, ou comme en Allemagne, ou comme en Hollande, ou dans ces pays-là, où les loups avaient été exterminés. Et où là, les perceptions des populations sont complètement différentes. Alors, il se trouve que dans certains pays, je fais une toute petite parenthèse sur l'Allemagne, parce que là aussi, les loups avaient été exterminés. C'est en plus un pays très voisin au nôtre. Mais visiblement, le retour de loups se passe beaucoup mieux qu'en France. Donc, on a une population qui est aujourd'hui plus élevée en Allemagne. On a plus de 1200 loups, peut-être même 1500 aujourd'hui. Alors que ils sont revenus presque 10 ans plus tard que par rapport à ce qui s'est passé en France. Et en plus de ça, là-bas, en Allemagne, il n'y a pas de politique de régulation artificielle du loup.
On rappelle qu'à l'échelle européenne, le loup est une espèce protégée.
Absolument.
Au maximum, tirer un loup, c'est 150 000 euros d'amende et 3 ans de prison.
C'est la loi. Voilà, c'est la loi pour les espèces protégées. Et malgré ça, il y a des phénomènes, il y a des systèmes dérogatoires donc qui permettent quand même aux États européens de déroger à la réglementation générale par rapport à des problématiques particulières liées aux activités humaines, notamment des activités d'élevage, pour en cas de problème entre guillemets non gérable, ce que nous considérons comme gérable, par contre, que des troupeaux se font attaquer en particulier et que les éleveurs ne peuvent pas s'en sortir en dehors qu'avec des tirs, on a montré, enfin c'est pas nous qui l'avons montré, c'est l'histoire a montré que dans les pays où les loups n'avaient jamais disparu, comme l'Espagne, comme l'Italie ou comme les pays d'Europe de l'Est, la cohabitation fonctionne depuis très longtemps, depuis toujours.
Il y a une habituation qui est faite. Moi, ce que je voulais aussi rappeler, c'est qu'en France, c'est qu'il y a un loup sur cinq qui est abattu chaque année quand même.
Oui, officiellement.
Parce que officiellement, il y en a plus en fait.
Officieusement, c'est peut-être deux loups sur cinq. On n'en sait rien. Là, on est ensuite sur des phénomènes de braconnage qui existent, puisqu'il y a des cas qui sont recensés régulièrement, donc des gens qui se font attraper quelque part. Et il est très probable qu'il y ait effectivement un nombre significatif de loups qui sont détruits de manière illégale.
Alors moi ce que j'aimerais qu'on parle pas que d'amendes, de nombres et de chiffres, etc. Dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est que nos loups allemands, ceux dont tu parles, contrairement à ces loups qui viennent des Abruzzes, en Italie, qui sont notre souche de loups à nous, ceux qui viennent en Allemagne, ils viennent d'ailleurs. C'est une sous-espèce différente
c'est
que de notre Canis lupus.
C'est une lignée différente, c'est pas tout à fait la même.
Alors, explique-nous la différence et surtout explique-nous qu'ils viennent de Pologne.
Alors, ils viennent même de plus loin que la Pologne. Hein. Ils peuvent venir de Russie. Enfin, c'est ce qu'on appelle la lignée d'Europe centrale. Donc, quand on parle d'espèces ou de sous-espèces, on est vraiment dans des différences génétiques assez fortes et même des différences morphologiques. Là, on est plus sur des phénomènes, sur des principes de lignée, comme on dit, hein, où là, il y a quand même quelques différences génétiques, mais qui ne sont pas à un point très prononcé, on va dire. Et ça peut se traduire effectivement par certaines caractéristiques un peu différentes, avec des loups italiens un petit peu plus petits.
On peut peut-être dire leur petit nom scientifique. Le loup italien, c'est Canis lupus italicus. Et ceux dont on essaye de parler là, qui viendraient de Pologne, en tout cas de l'Est, c'est qui ?
Alors j'ai plus le nom, j'avoue. Hein, j'ai plus le nom scientifique parce que je connais beaucoup plus les loups italiens, mais.
Mais voilà, en tout cas, tu dis que c'est une lignée, moi je dis que c'est une sous-espèce, bon, d'accord. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'en France, ils se mélangent, et ça c'est plutôt bon pour l'espèce d'ailleurs, mais évidemment ça plaît pas à tout le monde, hein, mais voilà. Peut-être ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que les loups en France, là, ils commencent à avoir bien colonisé ce qu'on va appeler l'arc alpin. Ils sont en vadrouille tout autour. Peut-être tu pourrais un peu expliquer cette dynamique de population.
Alors le loup, c'est une espèce qui se disperse beaucoup. Hein, parce que on est vraiment sur le grand prédateur du sommet de la chaîne alimentaire qui a besoin de ressources alimentaires justement suffisantes pour pouvoir se maintenir. À partir du moment où on a une meute qui s'installe dans un secteur sur un territoire et que il arrive, je dirais, enfin que les ressources arrivent au taquet de ce que la meute peut consommer, naturellement, c'est ça qui est très important, c'est que naturellement, ce prédateur, comme tous les prédateurs dans la nature, s'autorégule. Ça veut dire que les jeunes qui proviennent de la meute, alors souvent c'est pas les jeunes de l'année, mais c'est plutôt les jeunes de l'année d'avant, vont être chassés de la meute et vont se disperser dans ce qu'on appelle la dispersion.
C'est ce que Jean-Michel Bertrand appelle les louvards.
C'est ça, voilà. C'est quand ils atteignent un certain âge, donc un peu plus d'un an.
Un peu les ados, des jeunes.
C'est
quoi.
Ça. On n'est plus sur les louveteaux, c'est le nom habituel utilisé pour les jeunes, les très jeunes loups. Là, on est plus sur les louvards qui vont partir parfois très loin. Il y a des suivis officiels là, qui ont été menés.
2-3 000 kilomètres.
Avec plusieurs milliers de kilomètres parcourus par le même individu en assez peu de temps. C'est assez impressionnant.
C'est ce qu'on voit en France, c'est ces loups qui parfois on s'en rend compte quand ils se font percuter. J'ai plus tous ces endroits, mais en Bretagne, dans le nord de la France.
Oui, il y a des données des fois assez étonnantes, hein, des loups qui sont repérés de cette manière-là par des accidents de la route justement, et où personne n'aurait imaginé qu'il y avait des loups qui étaient présents à cet endroit-là. Et c'est ce qui nous fait dire qu'il peut y avoir aujourd'hui potentiellement des loups partout en France où tous n'ont pas été repérés et ne seront peut-être jamais repérés. Parce qu'ils ne vont ne faire que passer pour certains. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément un problème. L'important, c'est qu'on puisse informer le public dans toutes les régions de France qui sont susceptibles à un moment donné d'accueillir des loups. Et un gros souci, si on peut faire une transition par rapport à ça, le gros souci qui a pu se produire depuis une trentaine d'années, c'est qu'il y a eu très peu d'anticipation. En fait, les gens ont souvent été confrontés. Quand on dit les gens, c'est surtout les éleveurs, hein, puisque c'est eux qui sont les plus confrontés à la présence du loup par rapport à leur activité. Ils ont été directement confrontés de manière assez brutale parfois à des attaques, hein, sur leurs troupeaux avec beaucoup de pertes.
On rappelle qu'en France, il y a à peu près 11 000 brebis qui sont tuées chaque année. C'est pas un petit problème. Non. Et c'est un peu pour ça que c'est la guerre entre des assos comme vous, on va dire les mots, et des éleveurs qui sont très remontés, non seulement contre les loups, mais contre tous ceux qui essayent de les défendre.
Alors, on essaie de pas parler de guerre, justement, parce que nous, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Nous, on est vraiment dans l'état d'esprit de soutenir les éleveurs qui souhaitent faire des efforts et qui souhaitent s'adapter. Parce qu'il y en a qui le souhaitent pas, évidemment. Après, ben, ça les regarde, je dirais. Il faut admettre aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui auraient voulu l'éradication, la nouvelle éradication.
Et qui veulent toujours.
Je pense que pour la plupart, ils ont constaté aujourd'hui que ça ne pourrait pas être possible, hein, c'est clair, malgré les inflexions qu'il y a pu y avoir sur la réglementation, comme on en parlait tout à l'heure. Et donc, à un moment donné, il faut vivre avec. Et les messages qu'on entend de plus en plus de la part des éleveurs, c'est ça. C'est le loup est là, alors ça ne me plaît pas pour certains, hein, mais il faut vivre avec. Donc comment on fait ? Et là, c'est là qu'à un moment donné, bah, on franchit un cap et l'éleveur commence à réfléchir plus loin en se disant qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions avec la présence du loup.
Très bien Philippe. Bon, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Il y a évidemment trop de choses à dire sur le loup. On va te retrouver très vite pour un autre. D'ici là, prends soin de toi. Salut Philippe.
Merci beaucoup à vous.
Et salut Olivier, pardon, on va te faire intervenir très vite sur le lynx.
Eh bien, merci. Que veux-tu savoir sur le lynx ?
Non, alors là, on en était à se dire au revoir, Olivier, tu n'as pas suivi.
D'accord.
Donc, on va se retrouver dans un prochain épisode très vite. Et voilà, et merci à vous et à très vite. Salut.
C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo. Ainsi, chacune de vos recherches sur Internet générera des gouttes qui seront reversées au projet de votre choix, comme Baleine sous gravillon par exemple. Vous pouvez par ailleurs vous abonner à nos podcasts comme d'habitude, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur Hello Asso ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.